الله
بدعة
كورون
حلال
كاليفة
أوليما
محمد
رمضان
ألف ب س د
أوميرو مارون جوبيريا sociologue, spécialiste de l'islam en France et chercheur associé à l'IPRA de l'Université de Nantes.
Ziad Bouakl, historien de la philosophie arabe, chargé de recherche au CNRS.
La définition du bien et du mal entre dans différents champs ou catégories. La première, ou celle qui est le plus mise en avant, est celle du droit, qui comporte cinq catégories. Deux faisant référence à des actes louables qui méritent la récompense, ce sont l'obligatoire ou le wajib et l'acte recommandé ou le mandoub. Deux catégories qui font référence à ce qui est réprouvé ou qui mérite le cas échéant le châtiment, ce sont le makruh, l'acte détestable, et le haram, l'acte interdit, et également une catégorie plutôt neutre, le mubah, qui englobe ce qui est licite de faire.
On trouve également la question du bien et du mal en islam dans d'autres disciplines. Pour les théologiens, elle prend la forme d'une réflexion sur la justice et l'injustice divine, al-adl wal-jawr, et sur l'acte bon et mauvais. Et chez les philosophes, héritiers de la sagesse antique, elle se présente comme une réflexion sur le bien et le mal dans la création, al-khayr wa-shar, et sur les vertus communes à tous les hommes et dont l'acquisition mène au bonheur ici-bas.
On retrouve aussi cette question de bien et de mal dans le champ de la spiritualité musulmane ou soufisme. Mais l'expression coranique la plus appropriée pour traduire cette notion de bien et de mal serait certainement celle de « a'mal salihat » que l'on peut traduire en français par « les bonnes œuvres ». De ce point de vue, le Coran nous propose une dynamique de l'acte bon qui se situe au carrefour de la foi, al-iman, et de la sagesse, al-hikma, qui consiste à définir ce que serait l'acte bon à chaque instant de son existence. Le texte coranique ne contient pas de catalogue précis des bonnes œuvres. La visée divine serait plutôt centrée sur le fait d'inciter l'homme à pratiquer ce que je traduis en français par l'acte convenant, c'est-à-dire l'acte qui sied à la relation spirituelle et d'amour au divin, et à délaisser l'acte disconvenant, c'est-à-dire l'acte qui entrave ici la relation d'amour et de spiritualité au divin. On le voit bien ici, nous sommes loin de l'approche purement juridique telle que définie par le droit musulman qui est centrée sur le licite et l'illicite.
On ne trouve pas à proprement parler en islam l'équivalent du péché originel que l'on trouve dans le christianisme. C'est la désobéissance à Dieu qui serait en islam le pendant du péché. Et c'est cela que nous raconte l'épisode coranique d'Iblis, cet ange qui a été maudit par Dieu et qui est devenu le diable parce qu'il a refusé d'obéir à ses ordres et de se prosterner devant Adam. On voit donc là clairement le lien entre mal et désobéissance. Par contre, on ne voit pas trop comment tout cela peut échapper à la volonté divine. Et ce sont les premiers théologiens de l'islam qui vont donc prendre en charge cet ensemble de questions problématiques. Comment concilier le fait que Dieu soit le créateur de tout ce qui existe dans le monde, y compris le mal, tout en restant sage et juste? Et aussi, et surtout, du côté de l'homme, comment articuler volonté divine et responsabilité humaine? L'homme est-il prédestiné à faire le bien ou le mal en vertu de la préscience et de la toute-puissance de Dieu? Ou bien est-il le véritable créateur de ses actes et donc le seul responsable de sa désobéissance? À la question de savoir si l'homme est responsable du mal dans le monde, les théologiens musulmans n'ont pas apporté de réponse unique. On peut distinguer deux courants qui se sont affrontés à ce sujet. D'abord les Mu'tazilites, premier grand théologien de l'islam, ceux qui ont inauguré dès le 8e siècle ce style de pensée très spécifique et très particulier qu'est la théologie rationnelle, le kalam, les Mu'tazilites vont décharger Dieu de toute responsabilité du mal dans le monde. Dieu est avant tout sage et juste et il veut le meilleur pour les hommes. Il a créé le monde dans leur intérêt, il leur a envoyé des lois et des prophètes pour leur montrer le chemin du salut et il les a dotés d'une raison qui leur permet de discerner le bien du mal pour se perfectionner moralement. Tout cela afin de mériter leur séjour au paradis. Et c'est cette idée de mérite qui est au centre de la réflexion éthique et théologique des Mu'tazilites qui limite en quelque sorte la puissance divine. L'homme étant responsable de ses actes, c'est lui qui est à l'origine du mal dans le monde et Dieu n'y peut rien. D'autre part, les Ash'arites, du nom de leur fondateur Al-Ash'ari, un Mu'tazilite qui s'est séparé de ses maîtres au Xe siècle pour fonder sa propre école de théologie, les Ash'arites vont contester cette façon dont les Mu'tazilites vont résoudre le problème du mal dans le monde, parce qu'à leurs yeux, elle affaiblit l'image du Créateur. Si Dieu est tout à fait incapable de faire le mal, quelque part, il serait plus faible que n'importe quel homme méchant ici-bas. C'est donc un peu en réaction à cette vision des choses et pour rétablir la toute-puissance de Dieu que les Ash'arites vont dire que Dieu veut tout ce qui existe dans le monde et que c'est parce qu'il veut une chose ou un événement, y compris l'incroyance et le mal, que ceux-ci finissent par exister. Évidemment, les Mu'tazilites vont critiquer cette vision de la divinité parce qu'elle laisse supposer que Dieu serait injuste. Et cela contredit des versets coraniques comme « Ton Seigneur ne sera point injuste envers sa créature ». Mais pour les Ash'arites, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste quoi qu'il fasse, mais d'une justice qui nous est incompréhensible parce qu'elle est incomparable avec notre vision humaine de la justice. Les philosophes arabes, qu'on appelle les falasifa, se distinguent des théologiens par l'importance qu'ils accordent dans leur réflexion à l'héritage philosophique et scientifique de l'Antiquité grecque. C'est grâce aux traductions vers l'arabe qui ont eu essentiellement lieu à Bagdad entre le 8e et le 10e siècle qu'ils ont accès à tout cet héritage. Donc pour eux, des philosophes comme Platon et Aristote ont élaboré des concepts qui sont toujours d'actualité et qui leur permettent de mieux comprendre et analyser le présent. Prenons l'exemple d'Averroès, l'un des philosophes arabes les plus importants et les plus connus. Averroès était philosophe et juge à la cour des Almohades en Andalousie au XIIe siècle et il a beaucoup réfléchi au cours de sa carrière sur les liens entre la philosophie grecque et la religion musulmane. On peut illustrer cela par un exemple tiré du bien et du mal dans le domaine éthique, c'est-à-dire des vices et des vertus. À la fin de son traité de droit positif, Bidayat al-Mujtahid, Averroès nous dit que le but des prescriptions de la loi, c'est d'acquérir les vertus de l'âme. Par exemple, les lois conjugales et les règles alimentaires de la charia correspondent à la vertu de tempérance, l'une des quatre vertus cardinales qu'il lit dans la République de Platon, et il a fait un commentaire de cet ouvrage. Les lois pénales et les lois relatives à la guerre correspondent à la vertu de justice, autre vertu cardinale de la République. L'aumône légale, la zakat, par contre, correspond à la vertu de générosité dont Aristote parle dans son Éthique à Nicomaque, texte qu'Averroès connaît bien puisqu'il en a fait un commentaire, etc. Et les pratiques cultuelles sont comme la condition d'acquisition et de consolidation de toutes ces autres vertus. Donc ce que nous dit Averroès, c'est que la loi musulmane s'inscrit dans une éthique universelle qui n'est autre que celle dégagée dès l'Antiquité par les philosophes grecs.
Pour refonder une éthique musulmane qui soit ancrée dans le monde d'aujourd'hui, il est impératif, de mon point de vue, de se détacher de la perspective juridique traditionnelle qui est centrée sur le comment faire ou sur le licite et l'illicite pour plonger dans une réflexion profonde sur les questions éthiques fondamentales et tenter de refonder une éthique de responsabilité. Il y a eu depuis la fin du XIXe siècle tout un ensemble de travaux qui ont tenté de déconstruire à la fois la raison arabe et la raison islamique. On a l'habitude de citer parmi les personnages les plus connus une personne comme Mohamed Iqbal. On pourrait en citer beaucoup d'autres comme Mohamed Harkoun qui a entrepris tout un travail de déconstruction. Des philosophes comme le Marocain Mohamed Abed Al-Jabri, qui est décédé en 2010, qui a tenté de refonder une éthique musulmane contemporaine. Le philosophe tunisien Abou Ya'rib Al-Marzouqi, qui est considéré comme étant proche des islamistes, a pourtant tenter de fonder une éthique de l'universel dans une perspective musulmane contemporaine. Pour la France, nous avons par exemple le philosophe Ali Ben Makhlouf qui a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages qui mériteraient d'être diffusés. Le problème de ce point de vue ne se situe pas tant dans le comment refonder une éthique contemporaine, mais dans la capacité des leaders religieux musulmans à s'approprier les travaux de leurs coreligionnaires issus d'autres champs et à les transcrire dans leur propre réflexion.